Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Le 26 avril 1984, l'un des plus importants chefs d'orchestre de l'épopée des musiques noires nous quittait à l'âge de 79 ans. Il était pianiste, était devenu l'un des rois du swing dans les années 30, il s'appelait Count Basie. 30 ans après sa disparition, nous avons décidé de saluer sa mémoire, mais aussi celle de tous ceux qui ont contribué à l'évolution du jazz au fil des décennies et qu'on appelait injustement les sidemen ou musiciens d'accompagnement. Ces virtuoses oubliées ont permis aux grandes formations de connaître le succès grâce à un esprit de famille, une volonté collégiale de proposer la meilleure musique possible. Certains d'entre eux se sont fait un nom, d'autres ont préféré la discrétion, mais leur destinée respective mérite d'être comptée. Lors de notre dernière plongée dans le jazz des origines, nous vous avions fait entendre les propos de vétérans comme Cecil Payne, Al Singer, Hank Jones, Von Freeman ou Harry Sweets Edison. Tous ont connu les heures glorieuses des big bands, tous ont servi le répertoire des grands leaders que furent Count Basie, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Charlie Parker et tant d'autres. Mais lorsqu'il fallut quitter le confort des grands orchestres pour tenter l'aventure d'une carrière solo, le défi s'avéra beaucoup plus périlleux pour ces musiciens de l'ombre. Le regretté Red Holloway, dont nous vous avons déjà évoqué la carrière dans cette émission, fut un saxophoniste très sollicité. Mais dès qu'il envisagea de voler de ses propres ailes, il comprit que tout était à refaire.
If you're a passenger on a bus, you never even think of driving the bus. All you think about.
Quand on est passager d'un bus, on ne s'imagine pas conduire le bus. On ne pense qu'à regarder le paysage qui défile, on y prend du plaisir, on sait où on dormira le soir. Soudain, plus de chauffeur de bus. Et vous vous retrouvez seul à pouvoir prendre sa place. Vous vous demandez subitement, suis-je qualifié pour conduire le bus ? Être leader, c'est exactement la même chose. Évidemment, quelques géants résistent, Sonny Rollins ou d'autres. Je me sens donc privilégié de faire partie de cette catégorie de gens. Peut-être pourrais-je remplir une tâche importante un jour. Je considère avoir une responsabilité envers les jeunes qui n'étaient pas là à mon époque pour apprécier le talent de vrais professionnels comme Coleman Hawkins, de vrais pionniers que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai pu discuter et de qui j'ai obtenu des réponses à mes questions. Je me sens comblé d'avoir pu interroger ces personnalités qui n'hésitaient pas à vous répondre. Aujourd'hui, les jeunes sont incapables de donner des explications claires.
You know, I mean, like, you never get a real answer.
Thank you. Au milieu des années 40, une nouvelle approche du jazz apparaît. L'ère des big bands touche à sa fin et ce sont des formations plus réduites qui occupent les scènes américaines. En d'autres mots, le swing des pionniers laisse place au bebop d'une jeune génération pleine de fougue et d'entrain, mais la notion de leader ou de chef d'orchestre résiste encore à l'érosion du temps. Le batteur Art Blakey en fut le parfait exemple. Il menait à la baguette ses Jazz Messengers avec une autorité artistique héritée des origines. Son jeu bouillonnant imposait une rigueur que ses musiciens devaient suivre avec application. Le saxophoniste Benny Golson, 85 ans, fit partie de ce quintet légendaire dans les années 50 et réalisa combien il était difficile de quitter l'univers sonore imprimé par un maestro. Anecdote.
Nobody was able to swing like Art Blakey. When I left his group,
personne n'a jamais swingé comme Art Blakey. Quand j'ai quitté son groupe pour un autre batteur, je ne réussissais pas à m'adapter. La différence était trop nette, c'était terrible. J'étais sans cesse tourné vers le batteur qui ne semblait pas suivre. Freddie Hubbard a eu le même problème pour s'adapter à un autre batteur. Art Blakey donnait un son au groupe. Aura Silver avait réussi cette performance au piano, à l'aide de mélodies. Mais Art Blakey fit la même chose seulement grâce au rythme. Il instaurait un esprit particulier à son groupe. Les percussions vous arrivaient droit au cœur. Vous ne pouviez que suivre. Ce fut une bonne école. Tant de musiciens ont joué dans ce groupe, y compris un batteur, Kenny Clark, ici à Paris, au Club Saint-Germain et à l'Olympia. C'était assez spécial, mais c'était véritablement fantastique. Ils avaient le même feeling au même moment. C'était de la folie.
Because Kenny Clark, same mind like Art Blakey swing. I was going crazy.
Si le jazz afro-américain a beaucoup évolué depuis un siècle, la place du leader est restée constante et incontestable. Le saxophoniste Kenny Garrett fut l'un des derniers partenaires de scène du célèbre Miles Davis et l'un des derniers jazz messengers du batteur Art Blakey. Il a donc eu le privilège d'observer de près la manière de diriger un orchestre par ces deux piliers historiques du XXe siècle.
I always make the comparison between Miles and Art Blakey because to me they were institutions.
Je fais souvent la comparaison entre Miles Davis et Art Blakey. Ce sont des institutions. Ils ont tous les deux permis à de jeunes musiciens de faire leurs premières armes pour apprendre à s'améliorer rapidement. On ne trouve plus cela aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle la musique évolue si lentement. Il n'y a pas assez de musiciens prêts à donner leur chance à de jeunes talents et dire « voilà ce que j'ai à vous proposer ». Je n'ai pas seulement appris la musique avec Miles et Art Blakey. J'ai surtout appris la vie. J'ai appris à grandir. C'est en suivant cette éducation que j'ai compris que le rap, c'était aussi de la musique, contrairement à ce que peuvent dire certains musiciens qui n'ont pas fait l'effort d'écouter, qui s'en sont même écartés. Le rap est une musique à part entière parce qu'elle repose sur des racines africaines bien précises.
But it's music, because it has a foundation. Music has to have a foundation.
Comment reconnaît-on un vrai maestro, un vrai innovateur ? En transformant sa musicalité sur une période de 50 ans, Miles Davis a prouvé qu'il était un leader à l'écoute de ses contemporains. Cette acuité, cette exigence furent une véritable leçon pour Kenny Garrett, qui n'avait pas 30 ans lorsqu'il rencontra le maître. Il s'inquiète d'ailleurs aujourd'hui du peu de considération que les jeunes jazzmen portent à leurs aînés.
A lot of the younger musicians are getting signed to these contracts when they're 18 and 19 and they don't have any experience.
Nombre de musiciens aujourd'hui sont signés à l'âge de 18-19 ans. Ils n'ont aucune expérience et personne ne peut leur en donner une. S'ils avaient eu le choix entre une grosse somme d'argent et aller jouer avec Art Blakey, ils auraient choisi le pactole. C'est difficile d'être musicien aujourd'hui. Personnellement, je voulais avoir une expérience réelle. J'aurais pu me faire connaître plus tôt et dire « Je suis Kenny Garrett », mais je voulais avoir plus de cordes à mon arc. Je suis donc resté avec Miles Davis le plus longtemps possible pour apprendre. Il ne faut jamais oublier qui sont les légendes du jazz. Miles et Art Blakey, Dizzy Gillespie, Woody Shaw, un grand innovateur de la trompette, malheureusement sous-estimé, Freddie Hubbard, immense trompettiste et tant d'autres. Je suis heureux qu'on s'intéresse à moi, mais ce n'est pas parce qu'un musicien est présent sur la scène jazz depuis de nombreuses années qu'il faut le déconsidérer. Le leader incontestable pour moi était Joe Anderson. L'autre jour, on me citait Branford Marsalis et Ralph Moore comme leader. Quoi ? Eux des leaders ? Joe Anderson était un leader. Ce n'est pas un manque de respect envers mes camarades, mais c'est la réalité. Branford et Ralph ne font que faire avancer l'évolution musicale à leur rythme. Nous sommes au stade de l'apprentissage, les gars. Quand nous atteindrons le niveau de nos aînés, nous serons des leaders. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir prétendre être quelqu'un.
Living to do before we can say we that.
Le fameux Joe Anderson, que Kenny Garrett citait en référence il y a quelques instants, fut l'un des saxophonistes éminents du label Blue Note. Disparu en 2001, il avait une profonde considération pour le statut de sideman, car lui-même avait accompagné des dizaines de célébrités avant d'être perçu comme un maestro. La multiplicité des orchestres aujourd'hui a malheureusement brouillé notre perception historique du jazz. Les virtuoses sont si nombreux que l'on banalise leur valeur dans l'épopée des musiques noires. L'un des leaders que l'on devrait célébrer de nos jours s'appelle David Murray. Compositeur, arrangeur, chef d'orchestre et saxophoniste de grand talent, il a toujours veillé à magnifier la culture noire. En jouant avec les racines de la diaspora africaine dans le monde, il a façonné pas à pas une œuvre passionnante. Et s'il est à nos yeux une figure majeure du 21e siècle, au même titre que les légendes d'antan, il n'oublie pas pour autant son apprentissage jadis aux côtés de ses héros.
Oh, I remember when I went on a tenor saxophone battle in 1978 at Den Haag at the Jazz Festival.
Je me souviendrai toujours de ce duel de saxophone en 1978 lors d'un festival de jazz. Il y avait là Eddie Lockjaw Davis, Illinois Jacket, Stan Getz, Archie Shepp et Hank Jones au piano, Max Roach à la batterie. Ce fut une bataille de sax ténor. Ornette Coleman et Sonny Rollins jouaient les troubles fêtes. Ce fut la première fois que je jouais avec des grands. Je pense m'en être sorti correctement. Dans une telle situation, on n'a pas le temps d'avoir le trac, on est poussé. C'est comme jouer au football, on est obligé de rentrer dans le match. Vous vous devez d'être au top et souvent, vous jouez mieux que vous ne l'auriez espéré. Vous atteignez le niveau supérieur. Vous écoutez actuellement le grand orchestre de David Murray qui renoue avec les majestueuses formations d'autrefois auxquelles il imprime le métissage musical de notre temps. Cette vision ambitieuse et respectueuse du patrimoine révèle un artiste soucieux de son rôle social et artistique à une époque où l'apparence l'emporte sur le sens. Il n'est d'ailleurs pas le seul à noter les dérives de la société du spectacle. Le saxophoniste Steve Grossman, ancien partenaire de Miles Davis dans les années 70, a observé les mutations de l'industrie du disque et ses conséquences sur la vie des musiciens. C'est étrange, j'ai l'impression aujourd'hui que l'on recule. On enregistre un album et ensuite on commence à tourner. Jadis, il y avait plus d'opportunités pour jouer. Il y avait encore des big bands quand j'ai commencé et j'ai joué dans quelques grands orchestres. Si vous vouliez jouer avec Miles Davis, Elvin Jones ou McCoy Tyner, il suffisait d'aller les voir et ils vous engageaient. Aujourd'hui, ça tourne un peu au ralenti. Voilà la grosse différence par rapport à hier. Avant, on jouait tous les soirs, parfois deux concerts par soir. On pouvait rester dans un club 3 ou 4 semaines ou voyager à travers l'Europe pendant 6 mois. Peut-être doit-on se présenter autrement aujourd'hui. À l'époque, il y avait des règles à respecter dans les orchestres. Il fallait savoir être au devant de la scène pour exister. À l'écoute de tous les témoignages entendus aujourd'hui, on note un regret persistant, le manque d'intérêt des jeunes pour l'histoire, le peu d'exigence et la méconnaissance de leurs racines culturelles et artistiques. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était opportun de rappeler quelques vérités à travers les propos souvent pertinents des témoins du siècle. Et pour enfoncer le clou, faisons une haie d'honneur musicale à ces artisans discrets qui ont vécu les heures glorieuses du jazz au sein des big bands de la grande époque du swing. Je vous le disais en début d'émission, il y a 30 ans, le 26 avril 1984, le pianiste et chef d'orchestre noir américain Count Basie nous quittait, laissant derrière lui un héritage musical massif qui représente 50 ans de jazz et quelques milliers de concerts à travers la planète. Le Count Basie Orchestra fut aussi un lieu d'expérimentation, un laboratoire pour nombre de musiciens en devenir. Le tromboniste Fred Wesley, bien connu pour son travail aux côtés du célèbre James Brown, a également été l'un des partenaires de Count Basie. Mais ce ne fut pas une mince affaire. Il m'a fallu du temps pour obtenir ce job. Une fois dans l'orchestre, j'ai très vite compris que je ne m'exprimais pas au trombone comme un jazzman. Je jouais très fort, peut-être trop fort. Count Basie me lançait des regards noirs. Je sortais constamment de la rythmique jazz, mais finalement, j'ai trouvé ma place. Cela vous prouve combien le travail et la persévérance finissent toujours par payer. J'avais mérité d'être un membre du Count Basie Orchestra, mais bon sang, j'avais bossé pour atteindre ce but. C'était en 1978 au Japon. Fred Wesley, tromboniste de soul funk émérite, découvrait le jazz exigeant du Count Basie Orchestra, un big band légendaire, une institution qui a vu passer des dizaines de virtuoses, dont Lester Young, Quincy Jones, mais aussi des chanteurs et chanteuses devenus des stars, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Tony Bennett, Sammy Davis Jr., Sarah Vaughan, etc., etc. Dans les années 50, il était impensable de rater une prestation de cet orchestre imposant. Le regretté Cedar Walton, pianiste de grand talent, disparu le 19 août 2013, nous avait parlé de ses années de jeunesse lorsqu'à 20 ans, en 1955, il découvrait New York, la capitale du swing.
When I got to New York,
quand je suis arrivé à New York, je suis allé directement au Birdland pour voir l'orchestre de Count Basie. Il était venu plusieurs fois dans mon Texas natal, mais j'étais trop jeune pour assister à un concert. J'étais encore un enfant à l'époque. J'ai longtemps ressenti cette frustration de ne pouvoir aller applaudir Count Basie qui livrait ses prestations dans des dancing interdits aux mineurs. Je connaissais ses disques par cœur et puis à 20 ans, j'ai enfin vu le Count Basie Orchestra et ce fut le choc. Je n'en crois je ne voyais pas mes oreilles. C'était différent des enregistrements que je collectionnais à la maison. Certes, c'était un leader, mais à la différence de Duke Ellington, il composait beaucoup moins. Tout reposait sur les solistes. Quelle chance j'ai eu de voir ces géants du jazz en action.
Ellington, Basie, and so I'm very happy about that.
Cedar Walton, que nous écoutions à l'instant, a été l'un de ces sidemen indispensables à la vie d'un orchestre. Il fut notamment l'un des jazz messengers aux côtés du batteur Art Blackie. On peut également l'entendre sur l'album Giant Steps de John Coltrane. Il était donc un personnage, certes peu connu du grand public, mais essentiel dans l'épopée des musiques noires. Son profond respect pour la tradition insufflée par ses aînés était indéniable, et son amour pour la musique de Duke Ellington en était une preuve formelle.
Ellington, many times I saw. Because he was
J'ai souvent assisté à des concerts de Duke Ellington. Il était constamment en tournée. Il n'aimait pas les jours de repos. Il fallait qu'il joue chaque soir. J'ai même joué sur scène à ses côtés. Je faisais mon service militaire, j'avais 21 ans, et je lui ai demandé « Monsieur Ellington, me permettez-vous de plaquer quelques accords sur votre piano ?» Et à ma grande surprise, il a répondu « Bien sûr ». Il m'a juste conseillé de ne pas trop m'enthousiasmer. En d'autres mots, il me disait « Utilise ce clavier avec précaution, jeune homme ». L'un de mes amis s'est mis au micro, nous avons interprété « What is this thing called love ?» et les musiciens de l'orchestre ont fini par nous accompagner. J'étais sur un nuage. Au moment de quitter la scène, M. Ellington s'est approché de moi et m'a dit « Je t'avais pourtant demandé de jouer tout en délicatesse ». Je n'oublierai jamais cette expérience. C'était incroyable.
« In his typical way, he said, I thought I told you to go easy. So, I'll always remember this experience. It was great. »
The A-Train, le grand classique de Duke Ellington, enregistré ici avec son orchestre le 26 novembre 1969 à Manchester, dans le cadre de la tournée mondiale qui célébrait le 70e anniversaire de ce grand maestro. Et nous allons d'ailleurs continuer à saluer la mémoire de Duke Ellington la semaine prochaine, puisque nous aurons le privilège de converser avec son petit-fils, Paul Ellington, et Tommy James, actuel directeur musical de l'orchestre, à l'occasion d'un concert exceptionnel au Grand Rex le 29 avril prochain, c'est-à-dire le jour anniversaire de Duke Ellington, qui naquit il y a 115 ans, le 29 avril 1899 à Washington. En d'autres mots, une émission et une prestation à ne pas manquer. Ce n'est pas tous les jours que le Duke Ellington Orchestra se produit à Paris. Enfin, je rappelle que le 30 avril prochain, c'est la Journée internationale du jazz, initiée par Herbie Hancock, ambassadeur de bonne volonté auprès de l'UNESCO. Cette année, les festivités auront lieu à Osaka, au Japon, avec la participation de Didi Bridgewater, Umu Sangare, Gregory Porter, Roy Hargrove, Marcus Miller, T.S. Monk, le fils de Thelonious Monk, Kenny Garrett, que nous écoutions tout à l'heure, ancien saxophoniste de Miles Davis, Courtney Pine, Wayne Shorter, Joe Louis Walker et quelques dizaines d'autres instrumentistes de renom. Inutile de vous dire que ce Jazz Day est planétaire. Vous êtes donc invité à organiser des événements dans votre ville, où que vous soyez, et ce, le 30 avril prochain, c'est mercredi. Vous pourrez également assister au concert d'Osaka sur Internet en vous rendant sur le site jazzday.com. Merci à Nathalie Laporte pour la réalisation impeccablement sereine du jour. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.